Charles Friès, le souffleur. S'il est au monde une profession modeste, ignorée, et qui ne satisfait point l'amour-propre, c'est bien celle de souffleur dans un théâtre. Aussi ne compte-t-on guère de souffleur par vocation. L'idée de s'ensevelir, vivant dans un trou, affriant de fort peu de gens. C'est un état qu'on embrasse qu'après avoir tâté de 20 autres et dans désespoir de cause. Assez souvent, le souffleur est un comparse à qui l'on a reconnu de l'intelligence, ou bien un invalide, pauvre, diable, qui use son reste de souffle à souffler ce qu'il ne peut plus crier. Parfois, c'est un acteur incompris qui a passé les belles années de sa jeunesse à se faire siffler de ce côté et d'autre, et se sent estimé tout heureux de trouver sous le capuchon de bois de sapin un asile où il put poser sa tête battue par l'orage et tourner pour toujours le dos à ce public stupide qui a méconnu son talent. Le souffleur est donc plutôt vieux que jeune, et sa mise éminemment classique et râpée est celle d'un commis en librairie ou d'un employé du Mont-de-Piété, et contraste d'une manière frappante avec la toilette excentrique de l'artiste dramatique. Le souffleur est donc plutôt vieux que jeune. Sa mise éminemment classique et râpée est celle d'un commis en librairie ou d'un employé du Mont-de-Piété, et contraste d'une manière frappante avec la toilette excentrique de l'artiste dramatique. La redingote de castorine, le pantalon de nankin à petits points, le chapeau bolivar sont encore de mode pour lui. Au théâtre, une calotte grecque sur un ou un bonnet de soie noire protège son chef gardé de cheveux. De grosses besicles en argent, signe distinctif de ses fonctions, surmontent son nez, qui est fourni de tabac aux dépens de la troupe entière. Les petits cadeaux entretiennent l'amitié, dit-on. Et les comédiens ne sauraient refuser leur tabatière à celui qui leur vient si souvent en aide et les empêche de patauger. C'est un prêté rendu. D'ailleurs, il est doux, sensible, restant en dehors des rivalités, des petites haines qui divisent la troupe des trop chatouilleuses des disciples de Thalie. Non, il jouit de cette paix de l'âme, de cette égalité d'humeur, fruits heureux d'une heureuse médiocrité. Quelle que soit la dose de sensibilité répartie par le ciel au souffleur, une fois tapi dans sa cahute, il devient inaccessible à toute émotion. Paroles d'amour, de haine, lazzi, cris de désespoir, coups de poignard, pluie de feu, éclats de la foudre, applaudissements, sifflets, jambes des actrices, il voit tout, entend tout, avec la même impassibilité. Orphée lui-même, ressuscitant avec sa lyre, le trouverait insensible. Et que deviendraient les acteurs, mon Dieu, si le souffleur ne conservait sur lui-même un grand empire absolu, si se permettait la moindre distraction? Sans lui, que de tirades manqueraient leur effet, que de tartines seraient impitoyablement châtiées. Et quelle vertu, quel courage surhumain il faut avoir pour ne pas avoir tombé de sommeil en entendant rabâcher à satiété les ouvrages soporifiques de certains auteurs. Dans les troupes nomades et dans les théâtres de la banlieue de Paris, théâtres qui méritèrent jadis le nom de galères sévestes, le souffleur cumule plusieurs emplois. Il est à la fois souffleur, costumier, régisseur, machiniste, lampiste, garçon d'accessoires. Il pousse même la condescendance jusqu'à balayer la scène. Et tout ceci n'est rien s'il n'avait encore à faire la besogne des acteurs qui sont trop surchargés de travail pour avoir le temps d'apprendre leur rôle. Et il les joue tout bonnement au souffleur. C'est-à-dire sans en savoir quelquefois le premier mot. Aussi, le plus pénible des 12 travaux d'Hercule n'est-il rien en comparaison de ce que notre homme a à faire pour que les pièces arrivent sans encombre jusqu'au dénouement? Il est rare que le souffleur soit garçon. 6 heures par jour de solitude dans un trou lui ont assez démontré que l'homme est né pour vivre en société. Il s'est donc marié, mais son humble condition ne lui a pas permis d'aspirer à la main d'une bien riche héritière, et c'est dans la classe industrieuse des ouvreuses de loges ou des balletteuses il s'est choisi une compagne. Quelquefois, il tente les chances du commerce et tient conjointement avec son épouse un petit assortiment de blanc, de bleu, de rouge, d'apprêts, de pâtes de lièvre, de pompons et d'autres objets et ingrédients à l'usage des artistes. Et si le ciel bénit l'union du souffleur et lui accorde des enfants, la troupe les adopte et les regarde comme siens. Les coulisses deviennent leur berceau, leur patrie. Ils grouillent sans cesse, ils grandissent, cajolés et choyés, bourrés de bonbons par tout le monde, et finissent presque toujours par se lancer de bonne heure dans cette carrière dramatique, au grand désespoir de leur père, qui sait par expérience toutes les couleuvres qu'il y a avalées dans ce malheureux métier d'acteur, et qui a voulu faire de ses enfants d'honnêtes artisans. Lorsqu'on monte une pièce nouvelle et que les rôles commencent à être sus, le souffleur ne manque pas une seule répétition. On le voit alors, le manuscrit à la main, suivre attentivement toutes les scènes depuis la première jusqu'à la dernière. Il s'accoutume ainsi au temps que prennent les acteurs à leur manière de dire. Ceux-ci, de leur côté, se font si bien à ses habitudes, s'identifient tellement bien avec lui, que Talma lui-même était troublé dans son jeu lorsque le bruit de la page retournée par le souffleur avait à ses oreilles un peu trop d'avance ou un peu plus tard que de coutume. Le jour de la première représentation venue, le souffleur fait un peu de toilette. Il met son habit le moins râpé, son gilet le plus frais, sa cravate blanche la plus irréprochable, et il arrive au théâtre, à la main le manuscrit, orné de faveurs vertes. Puis, il vient prendre les dernières instructions de chacun des artistes sur les mots à envoyer, les passages à soutenir, dit quelques paroles au directeur, se présente à l'instant, promène bras dessus avec l'auteur et disparaît sous la scène. Si la pièce marche bien, il ne manquera pas, à chaque entracte, il remontera afin de prendre sa part des félicitations, compliments et poignées de main que l'auteur ne serait manqué de distribuer avec largesse. Mais si la pièce tombe, il se gardera bien de reparaître dans les coulisses. Il restera quoi dans son trou, comme le limaçon dans sa coquille. Il sait à quoi il s'exposerait en agissant autrement. L'auteur ne lui adresserait plus qu'une laide grimace, et les acteurs auraient tous à lui reprocher quelque chose. Celui-ci de l'avoir laissé en plan, celui-là de l'avoir soufflé quand il n'en était plus besoin, un autre de l'avoir mené trop vite, etc., etc. Une faculté très précieuse chez le souffleur, c'est la mémoire. Un souffleur sans mémoire, c'est quelque chose de manqué, d'incomplet, comme une campagne sans eau ou une belle fille sans dents. J'en veux pour preuve le trait suivant. C'était dans une petite ville, dans un théâtre de province, où on venait de lever le rideau. Un acteur, aujourd'hui bien connu du public parisien, et qui avait ce jour-là mieux dîné que de coutume, s'avança d'un air pensif au milieu de la scène et commença en ces termes. « Lorsque je vins dans Rome, je ne sais pas plus la fin de la phrase, il s'arrête et lance un coup d'œil expressif au souffleur afin de réclamer son assistance. » Mais celui-ci, ne disant mot, il ne trouve rien de mieux à faire que de recommencer sur un autre ton. Et après s'être recueilli un moment, « Lorsque je vins dans Rome !» Et ici, même silence, forcé, rien ne part du trou, si ce n'est le bruit de feuilles tournées et retournées précipitamment. Soufflez, soufflez donc, dit l'acteur à voix basse, et gagnant d'un pas vers la rampe, il reprend pour la troisième fois, plus haut encore que les précédentes, lorsque je vins dans Rome. Il est encore obligé de s'arrêter. Pour le coup, furieux, exaspéré de voir le silence du souffleur se prolonger ainsi indéfiniment. Enfin, monsieur, lui crie-t-il, voyons, que faisais-je dans Rome? Ma foi, j'en sais rien, répond naïvement l'interpellé en avançant la tête hors de son trou. On a déchiré la page, qui pouvait me la prendre? À ce moment, un rire vraiment inexhéroïque s'empara de toute la salle, et peu s'en fallait qu'on ne jetât des couronnes aux deux auteurs de ce plaisant hors-d'œuvre.